Donc je vais vous présenter un petit retour d'expérience sur un bassin versant qui est en Dordogne, donc en dehors du bassin versant de la Vienne. Mais c'est quand même intéressant de partager les expériences. Donc c'est un tout petit bassin versant, il fait seulement 5500 hectares et il a la particularité d'avoir énormément de plans d'eau. C'est-à-dire il y a à peu près 300 plans d'eau sur 5000 hectares. Donc ça représente une densité de l'ordre de 7 étangs au kilomètre carré. Donc voici le bassin versant, donc sur une carte au 25 millième, avec le chevelu hydrographique et les myriades d'étangs qu'il peut y avoir sur les chevelus, et notamment les tout petits chevelus. Donc on a sur ce bassin versant-là une grosse problématique en termes d'usage, qui est un usage de baignade. Donc c'est l'étang le plus grand au milieu du bassin versant, qui fait 20 hectares et qui sert à la baignade et qui est un site réputé au niveau de la Dordogne, qui est ici. Et on a cet étang-là qui sert à la production d'eau potable. Et donc, à travers ces usages, sur le bassin versant et la myriade d'étangs avec un effet cumulatif important, on a un très gros problème de cyanobactéries qui empêchent la production d'eau potable et la baignade. Donc en fait, l'agence de l'eau, le parc, le conseil général et notamment les chambres d'agriculture ont décidé de mettre en place un contrat de bassin sur ce bassin versant pour étudier un petit peu les phénomènes d'eutrophisation des étangs et l'impact cumulatif, notamment lié au problème de cyanobactéries. Donc à côté de ça, il y a aussi un volet agricole pour contrôler un petit peu les amendements, etc. Puisque les cyanobactéries sont dues à un enrichissement des étangs en phosphore, qui est un élément nutritif. Donc ces cyanobactéries, leur principal problème, c'est qu'elles produisent des toxines. Donc elles sont toxiques pour l'homme. Et elles empêchent les usages, notamment l'utilisation de l'eau pour les usages de loisirs, mais aussi la production d'eau potable. Donc c'est vraiment le phosphore qui est problématique, et les étangs vraiment constituent le milieu favorable à leur développement, parce que les eaux se réchauffent en été, et parce que, comme les étangs sont, en Dordogne en tout cas, tous en barrage sur cours d'eau, elle bloque le transit sédimentaire et accumule le phosphore à l'intérieur. Donc voici quelques exemples de ce qu'on peut observer sur les étangs. Donc des voiles de cyanobactéries. Donc ici, de l'ordre de 2 millions de cellules de cyanobactéries par millilitre. Donc voilà, on peut avoir différentes formes de bloom, qui soient vert, blanc, rouge, on a un peu toutes les couleurs. Donc voilà, là, 1 million de cellules par millilitre sur un étang qui est sur une source. Donc la provenance du phosphore, c'est à la fois lié à l'agriculture, mais aussi à tout ce qui est assainissement, puisqu'on a une zone très rurale avec un habitat dispersé et pas forcément des rejets qui sont contrôlés. Et donc sur cet étang, par exemple, on a mesuré des quantités de phosphore à l'intérieur des sédiments, qui sont équivalents en termes de fertilisation à du fumier de vache. Donc, et ça, c'est l'étang qui est sur les sources, sachant qu'en dessous, on a la production d'eau potable. Donc, à travers les étangs, il y a un problème de qualité d'eau et d'usage des étangs. Et donc, on a essayé de mener au niveau des propriétaires d'étangs sur le secteur déjà une démarche de sensibilisation et d'information en allant les rencontrer, et une collecte de données pour connaître un petit peu quelle est leur gestion, quels sont les organes de gestion disponibles pour adapter une meilleure gestion des plans d'eau, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pu recueillir comme données. Donc l'idée, en fait, de rencontrer les propriétaires, donc sur les 280 plans d'eau, j'ai rencontré presque 200 propriétaires, donc à peu près les deux tiers. Bon, après, il y en a qui sont à l'étranger, difficiles à voir, qui n'ont pas voulu me rencontrer non plus. Donc voilà, le but, c'était vraiment de sensibiliser les propriétaires et de voir avec eux ce qu'il est possible de faire au niveau des étangs. Mais aussi de recueillir leur perception vis-à-vis du plan d'eau et de voir à quoi il leur sert un petit peu, quels sont les usages, etc. Donc voilà un petit peu. Donc en rouge, c'est tous les étangs que j'ai pu visiter. Donc voilà, 170 étangs sur 260. Donc à peu près deux tiers qui ont été visités. Et donc on voit les différents usages. Donc le premier usage, c'est la pêche de loisir. Donc la pêche de loisir s'entend, c'est à titre personnel pour aller pêcher à la ligne ou louer un petit cabanon pour la pêche. Donc on se rend compte quand même qu'il y a 26% des plans d'eau qui n'ont aucun usage, c'est-à-dire les propriétaires n'en font rien. Certains étangs que j'ai pu visiter n'ont pas été touchés depuis la tempête, donc on se retrouve avec des bois enchevêtrés dedans, etc. Donc il y a un petit peu d'agrément. Alors on parle d'agrément, c'est purement paysager. Donc c'est un étang par exemple qui est devant la maison, qui sert un petit peu de jardin aquatique, avec certaines espèces des fois qui laissent à désirer. Donc on peut avoir de l'abreuvement. Donc très peu de pisciculture, donc là seulement 9 étangs, et donc ça représente seulement 5% des plans d'eau. Donc un petit peu de baignade à titre personnel ou à titre collectif, et donc de l'AEP également. Donc ce qui est important de voir sur ces étangs, c'est les ouvrages qui sont l'état des ouvrages et ce qu'on peut en faire pour avoir une meilleure gestion. Donc il y a 20% des digues qui ont des arbres sur la digue. Et quand je dis des arbres, c'est plus de 40 cm de diamètre. Et donc sur ces, il y a également 9% qui ont une digue en très mauvais état, c'est-à-dire avec des fuites apparentes, des renards, des signes d'érosion prononcés. Donc on a souvent c'est des étangs qui sont relativement vieux, notamment qui datent de plus de 200 ans, quoi, et qui ont des digues en pierre qui étaient agencées un petit peu comme ça. Et suite à la tempête, en fait, ces digues servaient de chemin de débardage. Donc de lourds engins sont passés dessus et ont vibré un peu les digues. Donc on a des renards un peu partout. Donc là, c'est 10%, c'est vraiment un problème de sécurité publique évident. Donc après, au niveau des ouvrages, donc on a différents ouvrages, bon, comme on en a parlé ce matin, soit des vannes, donc les vannes, c'est-à-dire c'est avec des vis, on peut les régler, des bondes, c'est-à-dire qu'on est obligé de tirer d'un coup, comme la baignoire. Donc 22% des étangs, enfin des propriétaires, ne savent pas s'ils ont des ouvrages de vidange. Ils connaissent pas leur emplacement ou ils savent pas, quoi. Et c'est sous les ronces, on sait pas. Donc seulement 3% de moines sur le bassin versant, en sachant que la Dordogne en termes de politique des temps est très en retard par rapport à la Haute-Vienne ou la Corrèze. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau fonctionnement, ben, il y a 38% des gens qui ne savent pas si leur ouvrage fonctionne. Ça veut dire qu'ils sont propriétaires d'un étang, mais ils ne savent pas s'ils peuvent le vidanger. Ils ne veulent surtout pas toucher la vanne, parce qu'on ne sait jamais. Et donc seulement 33% des ouvrages de vidange permettent de réguler le débit. C'est-à-dire qu'on peut y aller doucement, faire ça sur plusieurs jours, etc. Et donc il y a 10%, on est sûr qu'eux, ils ne fonctionnent pas. Donc après, c'est un petit peu le ressenti et ce que j'ai pu retirer des enquêtes que j'ai fait au niveau des propriétaires. Donc 30% n'ont pas de système de vidange fonctionnel. L'ensemble des étangs visités au mois de juillet et août est impacté par les cyanobactéries. Donc ça peut être des blooms, comme je vous ai montré, qui sont très impressionnants, mais en général c'est seulement une pellicule sur la surface, souvent en queue d'étang, et ça peut être très variable d'un étang à l'autre. Donc souvent ça donne un peu un voile comme sur la gauche, sur la photo, un petit peu comme on a l'impression que c'est du gasoil sur l'étang. Et donc peu de propriétaires sont prêts à se séparer de leur plan d'eau dans le sens de le supprimer complètement. Et par contre, ils ne sont pas prêts non plus à faire de gros investissements sur leur étang. Donc beaucoup de propriétaires ne vidangent pas par peur des sanctions. Ils ne connaissent pas les devoirs qui leur incombent en termes de gestion et en termes de gestion de l'étang, notamment d'entretien. Certains étangs ne tiennent plus l'eau et sont à sec. Donc c'est ce que je vous ai dit, les digues qui ont vibré, des grosses fuites. Et donc les propriétaires, au bout d'un moment, ils ont dit, ben, on laisse ouvert. Voilà. Donc le plan d'action, un petit peu, pour la reconquête de la qualité de l'eau sur le bassin versant, ben, la priorité d'action, ben, c'est l'effacement des étangs. Donc on est sur un bassin versant où il y a vraiment énormément d'étangs, avec très peu d'usage. Donc la priorité pour regagner un petit peu la qualité de l'eau, que ce soit pour les étangs qui resteront ou pour les cours d'eau, ben, c'est d'effacer ceux qui sont en très mauvais état. Donc ensuite, on peut avoir aussi des systèmes de vidange avec des mises en assec pour essayer de contrôler les stocks de phosphore qui sont à l'intérieur des étangs. Donc on laisse pousser notamment la végétation à l'intérieur et après on faucarde et on exporte la végétation. Autant on exporte de végétation, autant on exporte de phosphore. Après, on peut avoir des systèmes de vidange coordonnés quand on a des étangs en chapelet, qu'il n'y a pas possibilité de faire des bassins de décantation sur chaque étang. On fait un gros bassin à l'aval et puis on vidange au fur et à mesure les étangs qui sont au-dessus. Et donc l'idée, c'est vraiment de repartir d'un état zéro en termes de sédiments et en termes de stock de phosphore à l'intérieur des étangs, et après de continuer à avoir une gestion active des plans d'eau, notamment à travers des vidanges régulières, des assecs réguliers, etc. Et donc tout ça n'est possible que si les étangs sont aux normes, c'est-à-dire notamment qu'ils ont un bassin de décantation, une dérivation. Donc pour vous donner un petit exemple d'action qu'on a pu avoir avec des propriétaires sur le bassin versant, donc Monsieur Devige, qui est propriétaire d'un étang qui fait 5 hectares, donc a effectué une première vidange, donc on le voit sur la gauche, qui n'a pas très bien marché, notamment la vanne a cassé au moment de la vidange et donc tout est parti. Donc des carpes de 16 kg sur les berges, 50 cm de vase sur 4 km de cours d'eau et la station d'eau potable en rade en dessous. Donc suite à cette vidange qui a mal marché, donc l'étang était à moitié vide, à moitié plein, et donc je l'ai aidé en fait à finir sa vidange et après à aménager son plan d'eau. Donc sur la droite, ici, vous avez donc la fin de la vidange de l'étang. Donc on a le cours d'eau qui se recreuse dans les vases et qui entraîne autant de vases que ce qui se recreuse. Et donc on a toujours ces vases qui sont très liquides et qui coulent en même temps au fur et à mesure. Donc ça, on a réussi à maîtriser ces départs, notamment en faisant de grands bassins de décantation. Donc il y avait, en gros, on a stocké 500 mètres cubes de vase dans les bassins, quoi. Donc la personne avait le matériel sur place, notamment une grosse pelleteuse, ce qui permettait de le faire. Donc ensuite, donc ici, vous avez une photo au bout de 8 mois d'ASEC. Donc on a une très belle zone humide qui s'est reformée derrière, d'où l'intérêt d'effacer des plans d'eau aussi, même sur source. Et donc la personne a décidé de curer son plan d'eau déjà pour pouvoir aménager un moine comme il faut sur du dur, et puis c'était autant de vases exportés aussi. Donc dossier loi sur l'eau pour le curage, etc. Et ensuite, donc, on l'a aidé à aménager, notamment avec la pose d'un moine, reconstruire ses pêcheries de façon à ce qu'elles soient plus faciles à pêcher, et puis bassin de décantation. Et donc, après, on a aussi accompagné des personnes dans de l'effacement d'étangs. Donc là, vous avez un exemple d'un étang qui est relativement petit, hein, il fait 1500 m², mais quand on est arrivé sur place, le propriétaire ne savait pas comment il se vidangeait, Il savait même, c'était une vanne intérieure, il savait pas où elle était. Et donc, on a procédé en fait avec un système de siphon. Donc, on a passé un tuyau par-dessus la digue, donc qui est ici là. Oui. Et donc, on est quand même arrivé à cet état-là, une fois siphonné. Donc, ça veut dire qu'il restait très peu d'eau. Donc, il y avait du poisson à l'intérieur. Là, on voit des petits poissons, etc. Il y a quelques carpes de 2-3 kilos. Donc, on a pêché l'étang, en fait, à l'épuisette, en sachant qu'on avait 1,50 m de vase dans l'étang. Et donc là, vous avez une photo 2 mois après la vidange. Après, donc, pour finir de l'effacer, en fait, on a fait une ouverture dans la digue à ce niveau-là, et on est resté juste au niveau de la vase, pour pas que toutes les vases soient entraînées par érosion. Et donc, au bout de deux mois d'ASEC, on avait cet aspect-là du plan d'eau. Donc, on a une végétation qui recolonise très rapidement le plan d'eau. Et on retrouve une zone humide directement. Donc après, une période d'ASEC assez prolongée, que le cours d'eau a bien reméandré dans les vases, que les vases soient bien tassés, bien asséchés, on a pu retoucher la digue pour rabaisser la digue au fur et à mesure, toujours, pour éviter qu'on ait des départs de vases intempestifs. Voilà, donc moi sur mon bassin versant, on a de réels problèmes au niveau des étangs. Les propriétaires ne sont plus au courant, on a une perte d'usage des étangs, on a une perte de savoir aussi dans la façon de vidanger. Et donc l'animation auprès des propriétaires est primordiale pour pouvoir avancer dans la reconquête de la qualité de l'eau. Et donc grâce à l'agence de l'eau Adour-Garonne, ils sont en train de monter un plan de financement pour pouvoir financer les propriétaires d'étangs. Voilà. Donc une belle zone humide, un bel étang effacé en Bernard Gapot.